par exemple, à cette maxime qui avait eu tant de succès à l'époque des Ming. La vertu de l'empereur est comme le vent, le peuple est comme l'herbe. Quand le vent souffle, l'herbe plie.
Voilà. C'était un petit peu... Dans son style, il y a une continuité très très forte. Et très franchement, dans les campagnes, il y a encore aujourd'hui des vieux paysans qui sont capables de vous demander qui est l'empereur. Hein. Ça, ils ne sont pas nombreux, ceux-là. Vous avez beaucoup de paysans qui également utilisent des termes ou des courbures physiques qui évoquent l'attitude de sous l'Empire.
Voilà une belle continuité. Ça, et à la rencontre du rituel et du secret, on trouve ce comportement de l'empereur ou de Mao Tse-tung, c'est-à-dire ne jamais dire quand il se montrera ou quand il ne se montrera pas, à savoir se cacher derrière un voile. Quand le fameux jésuite Matteo Ricci arrive au palais impérial en 1601, il demande à voir l'empereur, mais on le lui refuse. Il ne rencontrera que les eunuques. Et quand Malraux ou les autres visiteurs viennent pour voir Mao Tse-tung, ils ne savent jamais à quel moment ils le verront, et s'il est vraiment d'ailleurs dans la cité interdite, ou s'il se promène mystérieusement dans le pays.
Et ce sont des habitudes qui ont été même conservées. Deng Xiaoping recevait ou ne recevait pas, et vous pouvez être sûr que le nouveau Xi Jinping va prendre très facilement cette habitude-là. J'ajouterais que Mao Tse-tung, il y a une autre continuité dans le fait que ses apparitions étaient conditionnées par toute une série de déplacements qui, comme ceux de l'empereur, étaient imprévisibles. L'empereur ne pouvait pas aller très très loin parce que le chemin de fer n'avait pas encore été inventé, ni l'avion. Mais Mao Tse-tung, lui, avait en permanence un train qui était prêt à partir. Et il partait, et parfois, il ne disait jamais combien de temps. Il y a eu des années, 58, 59 par exemple, ou ensuite 71, où près de la moitié du temps, il était sur les chemins de fer. Et quand il était dans son train, qui était une véritable cour, et où il avait plusieurs dames qui étaient spécialement commises à son service. Et quand il était dans le train, tout le trafic devait s'interrompre.
Pas seulement lui servir le déjeuner.
Absolument. Et il y avait aussi une autre limite. Quand il prenait l'avion, on interrompait toute la circulation aérienne au sud de la Chine. C'est ce qui fait que finalement, Mao, qui par ailleurs avait peur en avion, a arrêté de prendre l'avion parce que alors là, ça arrêtait tout le trafic, y compris international.
Donc il y a à la fois le poids de ce lieu clos, de concentration des passions, et un besoin irrésistible par moment pour le chef, pour l'empereur, pour Mao, de s'en échapper.
Et une autre raison à cela, c'est qu'il s'est mis très vite à détester ce qui l'entourait. C'est-à-dire cet ensemble de camarades, de factions également, qui était assez dangereux pour lui, à la fois parce que c'était d'anciens chefs militaires et c'était des très bons, et puis il y avait un civil qui était absolument génial, dont il avait un besoin définitif, mais qu'il détestait, c'était Liu Shaoqi. Et tout cela, il les détestait aussi pour une autre raison, c'est qu'ils avaient une chance que lui n'avait pas.
C'est-à-dire...
Et c'est là que les facteurs privés jouent un rôle décisif. Mao était un génie, mais il n'a jamais été capable de gérer sa vie privée. À la fois, il n'a jamais su attirer le vrai amour des femmes qu'il prenait, il n'a jamais eu le temps vraiment de s'occuper de ses enfants, qu'il a semé sur les routes pendant la guérilla, qu'il a retrouvé, mais pas tous, la moitié de ses enfants ont disparu, soit qu'ils soient morts, soit qu'ils aient été gardés par des paysans.
Il y a son fils chéri qui est tué au moment de la guerre de Corée, c'est un drame.
La deuxième raison, il a cru, quand ils sont arrivés en 49, il s'est dit « allez, je vais être sérieux ». Seulement, il avait une femme qui était insupportable. C'était Jiang Xing, dont nous reparlerons.
Sûrement.
Et qui surveillait ses allées et venues la nuit. Et d'autre part, et surtout, il avait un fils qui était stupide, deux filles pas très malines, mais il avait un aîné en qui, de façon très impériale, il a vu d'emblée un successeur. Et le fils, qui était un type assez bien dans le genre communiste, a estimé qu'il fallait qu'il aille se battre en Corée. Et ce fils s'est montré audacieux ou intrépide quand il ne fallait pas. Il y a eu un bombardement américain et il est mort. Avec sa femme, qui était une enquiquineuse, ses enfants pas très fins, le fils mort... Il est devenu jaloux à un point inimaginable. Il est devenu jaloux de tous ceux qui étaient autour de lui et qui, de façon très consciente et organisée, préparaient déjà ce que l'on voit maintenant à Pékin, c'est-à-dire une société aristocratique. Ils organisaient tous, ils construisaient tous des véritables dynasties aristocratiques avec des enfants beaux, grands, bons en classe, etc. Et Mao voyait cette société aristocratique se constituer, croître, et alors que lui était un pauvre type tout seul, contraint de se satisfaire de passade.
Liu Chaoqi, qui a été président de la République, était le personnage majeur à côté de lui que vous avez évoqué, avait une vie terriblement heureuse et particulièrement irritante, si je comprends bien, pour Mao Tse-tung. Il n'a pas eu de cesse que de la briser, cette famille.
C'était une famille vertueuse.
Il l'a brisée.
Il l'a brisée. Il avait une femme qui était sublime, intelligente, une ancienne, j'allais dire, cagneuse, une taupine, véritablement. Elle avait une bourse pour une université américaine, elle avait choisi le communisme. Il l'embrassait, parfois même sur la bouche, ce qui en Chine fait un effet inimaginable. Et puis, c'était des enfants qui étaient tenus très durement, si bien que, des fois, tout le monde se moquait de, et en maintenant admirait Liu Shaoqi et se moquait de lui. Ils se baladaient dans le parc avec leur bol de riz, parce qu'ils allaient réclamer du riz ailleurs, vu que papa Liu Shaoqi voulait pas que dans sa famille il y ait trop de facilité, une alimentation trop riche, etc., etc. C'était véritablement une société aristocratique en voie de formation, et Mao d'emblée a donné une interprétation politique à ce qu'était une détestation, c'est-à-dire c'est des gens qui croient plus tellement au communisme, ils veulent plus avancer vers l'avenir lumineux que je leur propose, et ils ne pensent qu'à leur intérêt, ce qui était de plus en plus vrai.
Le tout sous le regard quotidien des uns et des autres, ce qui forcément intensifie énormément la chaleur des passions et des...
Absolument. Alors c'est un monde où tout le monde observe tout le monde et où Mao était obligé donc de tenir bien serré ses gardes, et le chef de ses gardes, Wang Dongxing, et régulièrement il faisait des purges en quelque sorte pour être sûr de bien les tenir, parce que c'était le chef de ses gardes, notamment Li Yinxiao, était celui qui le ravitaillait en soldats et autres condiments féminins. Il lui fallait souvent plusieurs personnes à la fois, etc.